Je vous souhaite à tous la bienvenue et puis je tiens à dire à Philippe Sand et à sa traductrice que nous organisons souvent des rencontres avec des auteurs, mais il y a parfois du monde, mais là il y a réellement beaucoup de monde. Donc merci à tous d'être là. Je prends 5 minutes la parole pour souhaiter la bienvenue à tous et puis remercier l'auteur. Et, à plein de titres, on a été très heureux, la librairie et indirectement la maison d'édition, de pouvoir recevoir Philippe Sand pour Retour vers à Landberg. Car vous avez fait écho du passage d'un des protagonistes, Lankin, donc je ne parlerai que de lui, vous laissant les autres acteurs du roman. Et Lankin a été édité ici, dans la maison d'édition, et donc a sans doute visité aussi ses murs. Et on a édité, enfin la maison d'édition a édité deux livres de Lankin, un en 1933, et alors je prends mon papier pour vous donner le titre exact, qui était Les actes constituant un danger général interétatique considéré comme délit de droit des gens, édition Pédone 1933, et donc là on sent que déjà se dessine ses interrogations et ses travaux sur le génocide. Après, le livre qu'on a édité en 1939 de Lankin et dont il s'est réjoui de recevoir les épreuves lorsqu'il était en Suède, hein, puisqu'il avait dit, lorsqu'il a reçu le manuscrit, alors c'est des dires qui ont été rapportés, c'était comme un bateau de vivre parvenant à des hommes affamés. Eh bien, ce bateau de vivres venait d'ici, et alors je n'ai pas forcément, mais je pense que c'est celui-ci, c'est le droit pénal en matière de devises, études de droit comparé de 1939. Et là, on est loin de la notion de génocide et de ce qui va, ce sur quoi il va travailler par la suite. Mais voilà, donc c'est un bel hommage et une belle rencontre que de vous recevoir ici. Et donc, je vous laisse la parole. Et puis, si je voulais remercier l'éditeur, les éditions Albin Michel et Madame Mansacré qui est là et qui nous offre le champagne à l'issue de cette présentation. Donc nous pourrons boire par la suite. Voilà.
Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. On est là pour célébrer Retour à Lemberg de Philippe Sand, que voici, qui est à la fois une histoire familiale de souvenirs. Ça marche pas ? Si ? Si ? Ah, alors c'est à la fois une histoire familiale, je disais, personnelle, c'est l'histoire d'un petit-fils, mais c'est aussi l'histoire, la grande histoire du XXe siècle, avec toutes les tragédies que nous savons. Alors dans les différents comptes rendus, il est généralement question de quatre personnages qui composent ce livre, mais en vérité j'en compte six. Il y a d'abord Léon Buchholz, ton grand-père, originaire de Lemberg, devenu français. Il y a Herr Schlauterpart, originaire de Lemberg, devenu britannique et inventeur, enfin celui qui a conceptualisé les crimes contre l'humanité. Il y a Raphaël Lemkin, dont il était question à l'instant, originaire de Lemberg, devenu américain pour sa part, et qui lui a inventé le terme de génocide. Il y a aussi Hans Frank, qui est allemand et resté bien allemand, et qui était le gouverneur général de la Pologne occupée, qui annonce la solution finale à Lemberg. Et justement, il y a Lemberg, la ville, qui est un personnage, me semble-t-il, à part entière, hein, et dont l'histoire est aussi contée dans ce livre, avec tous les gouvernements et tous les supplices qu'a subi cette ville durant le XXe siècle. Et puis surtout, il y a toi, Philippe Sands, avocat, romancier, écrivain, professeur, et pour ce livre, détective, je crois, un détective qui ourdit la trame cachée qui unit tous ces personnages dont je viens de parler, un détective qui n'a compté ni son temps, ni les moyens pour retracer cette histoire, justement, cette histoire compliquée où on croise à la fois des personnages célèbres, les filles de Freud, l'écrivain Malaparte, hein, mais aussi une grande tante retrouvée à Tel Aviv, un peu par le hasard du cheminement dans les correspondances privées, une bonne sœur missionnaire avec la foi chevillée au corps qui l'a rendue résistante, un ami de ton grand-père Max et beaucoup d'autres encore. Donc un détective qui raconte une histoire autour de personnalités et non pas autour d'entités abstraites comme dans les classiques livres d'histoire, l'État, le droit, etc., parce qu'il me semble que c'est un des messages de ce livre, que ce sont les personnages justement qui font l'histoire, avec leurs qualités, leurs travers, mais c'est eux qui sont le moteur de l'histoire. Alors il y a des personnalités têtues dans ce livre, au premier chef desquels évidemment Lauterpacht et Lemkin, mais aussi les procureurs Jackson et Shawcross dont tu racontes l'histoire. Il y a des personnalités plus troubles, comme la femme de Hans Frank, mais qui joue un rôle important. Des personnalités plus attachantes, son fils, le fils de Hans Frank et de Brigitte dont je viens de parler, et peut-être même Horst von Wächter, qui est pourtant le fils d'un méchant homme, puisqu'il était le patron des SS de Galicie, et tu les as réunis tous deux dans un film qui s'appelle Our Nazi Legacy, que je vous recommande chaleureusement, qui est le voyage à Lemberg avec ses deux fils d'eux, et qui est un récit tout à fait poignant, un film tout à fait poignant. Bon, bref, différentes histoires se croisent entre mémoire et histoire, souvenirs intimes et débats publics, et je crois que parmi les très grandes forces de ce livre, il y en a beaucoup, mais l'une tient à la qualité de détective de Philippe, c'est-à-dire la recherche absolument rigoureuse à la fois dans l'histoire et dans la trame familiale. Tout est documenté, il y a des photos, il y a des interviews, il y a des lettres, mais aussi du côté plus classiquement historique et de la documentation historique. Et évidemment, la manière de les entrelacer dans un récit palpitant. Mais je vais tout de suite passer la parole à Philippe. J'ai plusieurs questions, j'en ai quatre. Hein. Je ne sais pas comment tu veux qu'on procède. Un. Ah, venez. S'il y a encore des... Bon, je vais commencer par une première et on verra les autres par la suite. La première, c'est peut-être l'origine de ce livre, parce que tu as été invité à Lviv pour un voyage professionnel. Et c'est un peu par coïncidence que tu as... C'est la coïncidence qui t'a mis sur la piste qui deviendra Retour à Lemberg, n'est-ce pas?
Ok, on commence avec... je réponds à ta question, mais je dois commencer d'abord...
Je n'ai pas du tout discipliné.
Pour
hein.
te remercier, toi, Astrid, pour une traduction, mais vraiment qui m'a touché. On a travaillé ensemble pendant plus d'un an et vraiment, je suis ému. Et il y a tellement de gens qui ont lu... un livre que j'ai écrit en anglais, mais qui est vraiment ma voix, que j'ai lu, et plein de mes amis qui sont là. Et c'est vraiment, ça me rend heureux de voir tellement d'amis ici de ma vie professionnelle dans le milieu du droit international. Merci d'être venu. Deuxièmement, à Marc et à Bénédicte et à la famille Pédon, une librairie que Laurence Boisson de Chazourne m'a présenté pour la première fois et que je connais depuis presque 30 ans maintenant. Et je suis venu ici et je pense de faire cet petit événement pour lequel je remercie Hélène et Albin Michel, l'équipe magnifique Albin Michel. C'est vraiment quelque chose d'être ici, une sorte de launch de l'édition française où on ouvre la porte. L'édition est parue il y a à peu près un mois et d'être ici, c'est quelque chose de très important. Bon, et aussi il y a de la famille. Et il y a des amis, il y a plein de gens, et je suis ravi d'être ici. Bon, ta question. Ben, j'ai reçu au printemps 2010 une invitation d'un université, d'un fac de droit dans une ville que je ne connaissais pas, Lviv, en Ukraine. Et c'est seulement quand je me suis rendu compte que Lviv, c'était la même ville que Lvov, quand c'était en Pologne, et Lemberg, quand c'était en Autriche, en 1904, quand est né mon grand-père, dans cette ville de Lemberg, que je suis décidé d'aller visiter, aller voir comment c'était. Et j'accepte pour 6 mois plus tard d'arriver au mois d'octobre avec ma mère qui est ici aujourd'hui, avec ma tante qui n'est pas ici aujourd'hui, je pense, et avec mon fils. Et j'ai eu 4 ou 5 mois pour préparer le discours qu'ils m'ont demandé de présenter, un discours sur le travail que je fais dans le droit international et surtout au sujet de crimes contre l'humanité et génocide. Et je passe un été à faire mon travail régulier, mais aussi, d'un côté ou l'autre, de faire un peu de recherche. Et je suis étonné de découvrir que l'inventeur du concept de génocide était étudiant dans ce fac de droit à Lviv, et personne là-bas qui m'a invité ne le savait. Première instance de trouvaille bizarre. Et après, j'apprends, encore une fois par accident, que le monsieur, comme tu as mentionné, qui a mis le terme « crime contre l'humanité » dans le droit international, le 29 juillet 1945, on peut le dater exactement, la date et la location à Cambridge, numéro 6 Cranmer Road. Lui aussi, c'était un étudiant, il venait de Lviv, était un étudiant au même fac, et les gens ne le savaient pas. Alors, j'ai trouvé ça complètement étonnant. Et les coïncidences ont continué et multiplié, jusqu'à un point où on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, par exemple, ce n'est pas vraiment dans le livre, c'est dans les acknowledgements. À la fin, il faut lire très attentivement. Mais quand, après 6 ans et 4 versions différentes de 145 000 mots, chacune différente, avec une éditrice à New York qui m'a vraiment, vraiment poussé, une éditrice merveilleuse, Vicky Wilson, finalement, en 2011-2012, après un an après que j'avais fait la première version, mon agent littéraire, parce qu'en Angleterre, on ne peut pas aller directement à une maison d'édition, il faut avoir un agent. Et j'avais travaillé avec un agent depuis 10 ans. J'ai un agent à Londres et un agent à New York. Et l'agent à Londres a envoyé le texte début 2011, fin 2011, à New York, à Melanie Jackson, qui le reçoit. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, remarquable, remarquable de recevoir ce texte. Et je dis, ah oui, pourquoi? Elle me dit, parce que apparemment, mon grand-père et mon père sont les seuls dans le monde entier qui ont tous les deux travaillé avec l'Art Pact et Lemkin. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, parce que mon grand-père, c'était Robert Jackson. Et mon père, c'était Bill Jackson, qui a travaillé dans le procès de Nuremberg à côté de son père. Je ne le savais pas, je connaissais Melanie Jackson depuis 10 ans, mais Jackson, c'est un nom assez régulier, et j'étais, encore une fois, complètement étonné. Et à la suite de 6 ans, une découverte après l'autre, et un livre complètement accidental. Vraiment, je ne cherchais pas à trouver cette histoire. C'est vraiment une histoire qui m'est venue par accident, ou peut-être pas, on ne sait pas vraiment pourquoi on est pris dans ces directions. Un livre qui, pour moi, est un livre sur la question de l'identité, parce que l'aspect central de ce livre, c'est la tension entre les deux idées de l'Art Pact et Lemkin. L'Art Pact qui poussait pour la protection de l'individu, crime contre l'humanité, Lemkin qui poussait pour la protection de la groupe, et entre ces deux idées, moi je me trouve. Et le livre, comme tu le mentionnes en fait, c'est mon voyage aussi, un voyage qui dure 6 ans. Est-ce que je suis avec l'Art Pact? Est-ce que je suis avec Lemkin? et la question de mon propre identité, individu, membre de groupe. Et pour moi, le livre est vraiment un livre sur l'identité, sur le silence et sur la mémoire. Pour moi, ce n'est pas un livre du Shoah. C'est un livre qui est centré sur le Shoah, mais qui ressort les mêmes thèmes au Rwanda, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, au Chili. On peut aller partout dans le monde. Et les gens, et ça je l'ai vu un peu en voyageant avec ce livre, les thèmes ont un effet, une résonance partout dans le monde parce que ce sont des thèmes universels. Et ça, je ne m'en rendais pas compte en écrivant ce livre.
Justement, c'était un peu dans ce sens-là que je voulais te poser une deuxième question qui va un peu au-delà de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, incontestablement, bien que Hersch ait pu introduire crime contre l'humanité dans les chefs d'accusation à Nuremberg, le vrai vainqueur, c'est ce que je dirais en tout cas, c'est Lemkin, même si son génocide a été reconnu un tout petit peu plus tard dans la convention sur le génocide, mais il me semble que le crime des crimes aujourd'hui, c'est le génocide. Est-ce que, have you made your mind up? Est-ce que, où tu en es toi aujourd'hui, à la fois dans ta pratique professionnelle, de cette tension entre les deux manières de concevoir la protection des individus ou des groupes?
Alors, il faut revenir en arrière et se centrer dans un moment en 1939 ou 45, où en droit international, en effet, l'État avait une liberté totale et une souveraineté absolue de faire ce que l'État voulait envers ses propres citoyens. Si un État voulait tuer 10 000 personnes ou 100 000 personnes ou 1 million de personnes, en droit international, il n'y avait pas de règle qui disait « ça ne se fait pas ». Et le changement révolutionnaire qui a eu lieu en 1945, c'était de dire, bien sûr, il y a des limites sur le pouvoir de l'État. Et ça, c'est une révolution. Mais les deux hommes, Lauterpacht et Lemkin, avaient une approche différente. Pour Lauterpacht, déjà aux années 30, l'individu était au centre du droit international. Le droit international est au service de l'individu. Et le droit international, il a écrit vraiment en 1945 avec son livre An International Bill of Rights of Man, doit au premier rang protéger chaque être humain parce qu'il ou elle est un être humain et a des qualités personnelles en étant un être humain qui a droit à être protégé pour cette raison et pour cette raison tout seul. Et Lemkin dit non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Les gens sont attaqués, tués, abusés dans des nombres immenses, pas à cause de leur qualité individuelle, mais parce qu'ils font partie d'une groupe, parce qu'ils sont membres d'une groupe qui est détestée à un moment particulier, dans un endroit particulier. Et le droit doit refléter ce fait. Oui, dit Lauterpacht, sauf qu'il ne le dit jamais à Lemkin, parce que remarquablement, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, ce que je trouve vraiment très, très touchant. Je les ai trouvés dans la même ville, le même jour, trois fois, mais jamais dans la même chambre, au même moment. Il y a peut-être une possibilité qu'à la réunion du International Law Association à Cambridge en août 1946, que Lauterpacht a écouté Lemkin, mais il n'est pas intervenu. Ils ne se sont pas présentés. Et Lauterpacht dit « Oui, mais le problème avec votre idée, M. Lemkin, c'est que vous allez remplacer le tyrannie de l'État avec le tyrannie du groupe. » Et je pense que c'est un peu comme ça maintenant qu'on vit. Alors il y a les deux concepts qui commencent au même moment, « Crime contre l'humanité » le 29 juillet 1945, « Génocide » 10 jours plus tard, le 6 août 1945, encore un peu plus tard que ça, le 18 octobre finalement, deux mois plus tard. Et ils font tous les deux partie du procès de Nuremberg. Pour Lemkin, le résultat était une catastrophe parce qu'on ne trouve pas le mot génocide dans le jugement de Nuremberg. Ça a complètement laissé tomber. Et c'est 3 mois plus tard qu'il passe à la première réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, dans l'État de New York. Et l'Assemblée générale dit non, c'est un crime en droit international déjà, ça existe et on va le pousser. Mais je crains que l'Outer Pact, ils ont tous les deux raison, l'Outer Pact, et c'est ça la tension dans le livre, tu as très bien compris, l'Outer Pact a raison, et moi je l'ai vu dans le travail que je fais, quand je fais des affaires qui touchent sur génocide, et il faut prouver dans un procès que des gens ont été tués avec l'intention de détruire le groupe dont ils font un parti, de prouver ça, quelque chose qu'on n'a pas besoin de prouver pour crime contre l'humanité, crée des conditions psychologiques qui renforcent le sentiment d'un groupe contre l'autre groupe. Et ça, je l'ai vu directement. Et je pense qu'il y a une tension, une contradiction fondamentale avec le concept de génocide, c'est que ça crée les mêmes conditions que le mot a été inventé pour prévenir. Et on peut parler un peu plus de ça. Par contre, et je finis le livre à un lieu où je comprends pour moi la chose, intellectuellement, je suis avec l'Outer Pact. Si j'ai besoin de choisir un compagnon pour dîner un soir, je choisirai Lemkin, c'est sûr. Mais intellectuellement, je suis complètement avec l'Outer Pact. Sauf quand je me trouve à côté d'un charnier au milieu de l'Ukraine où on est devant 3500 corps, y compris la famille de l'Outer Pact et la famille de mon grand-père. Et là, dans un moment comme ça, on ressent que Lemkin a tout à fait compris la chose. C'est que nous sommes tous liés d'une façon qu'on ne comprend pas exactement à un ou plusieurs groupes. Alors la tension qu'on a tous, c'est une question d'identité. Qui est-ce que je suis, principalement? Est-ce que je suis un individu? Est-ce que je suis un membre d'un groupe? Quel groupe? Et quelle est la relation entre ces deux sentiments? Alors j'ai pas de réponse exacte, parce que je change de direction d'un jour à l'autre. Ils avaient tous les deux la force dans leurs idées, mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, si un président en France ou aux États-Unis parle de crimes contre l'humanité, ça ne rentre même pas dans les journaux. Si c'est dans les journaux, c'est à la page 15. Dès qu'on parle de génocide, c'est sur la première page. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que Lemkin avait raison? Ou est-ce que c'est parce que dans ce mot génocide qu'il a inventé, il y a une magie? C'est un mot qui ouvre l'imagination d'une façon que crime contre l'humanité, qui a un aspect plutôt technique, juridique, n'a pas le même effet. Et c'est le magie des mots, je pense, d'une façon. Mais c'est très complexe. J'ai pas de réponse convaincante. C'est un sentiment.
On y reviendra peut-être tout à l'heure tous ensemble dans les questions. Mais pour alterner les questions plus techniques ou plus conceptuelles et des questions plus d'ordre du romancier, Il y a beaucoup de scènes dans ce livre qui évoquent la mémoire, mais aussi la vie quotidienne, à la fois des personnages sympathiques, mais aussi des grands nazis détenus dans la prison de Nuremberg, où tu as beaucoup lu le psychologue qui les a accompagnés. Mais en quoi, pour toi, cette très grosse part donnée à la vie privée des individus informe-t-elle notre connaissance de l'histoire? Parce que c'est un vrai parti pris que de passer par les personnalités des acteurs. Je pense à la vie dissolue de Franck, sa femme. Je pense à, je sais pas, à l'homosexualité de Lemkin, à la lâcheté de Donnedieu. Enfin bon, il y a toute une série d'exemples qui sont importants pour toi, pour leur valeur explicative.
Moi, je pense que ça c'est pas... Ça, c'est une conséquence de ma formation d'avocat international qui plaide devant les tribunaux internationaux. Il y aura parmi nous des amis qui ne seront peut-être pas avec moi dans ce que je vais dire. Mais pour moi, quand je me trouve devant un tribunal international, que ce soit un arbitrage, je siège là avec mon président dans un arbitrage CIRD en ce moment, ou devant la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour internationale de justice. Un cours, un tribunal, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Un tribunal, c'est le somme de certains individus qui siègent, que ce soit 3 ou 5 ou 15, ou au tribunal du droit de la mer, 21. Et là, c'est peut-être aussi une formation anglo-saxonne, plutôt que française, de partie de mon être. Quand je prépare une affaire avec mes collègues, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur les juges individuels. Dans un tribunal de 15 personnes, il y aura seulement 4 ou 5 qui sont vraiment importants. Importants ou parce qu'ils ont une certaine puissance dans le tribunal, ou parce qu'ils sont au milieu, est-ce qu'ils sont avec nous, est-ce qu'ils sont contre nous. Et on passe beaucoup de temps à réfléchir comment convaincre un juge dans une direction ou dans une autre direction. Et cet exercice de faire ça, on se rend compte que c'est des êtres humains. Ils arrivent à l'acte de juger, pas seulement avec le droit et avec les faits, mais aussi avec leur histoire personnelle, leur culture, leur politique, leur idéologie, toutes les choses qui font vraiment marcher le droit. Le droit n'est pas l'application des faits, simplement l'application du droit aux faits. Il y a quelque chose d'autre qui rentre. Et ça, j'ai beaucoup constaté dans une partie de ma vie, la vie d'avocat devant un tribunal. Et alors, pour moi, c'est les plus petits détails où on trouve les plus grandes vérités parfois. Ça, j'ai remarqué. Alors, en écrivant ce livre, en faisant la recherche sur ce livre, je voulais rentrer, par exemple, dans le procès de Nuremberg, sur des détails pour comprendre un peu comment se sont passées vraiment les choses. Alors, tu as mentionné le juge français principal, Henri Donneudeux de Vabre, un des 4 juges principaux. Et en faisant la recherche, j'ai identifié son assistant au tribunal de Nuremberg. Et par coïncidence, je le connaissais. C'est un monsieur magnifique qui s'appelle Yves Begbeder, qui a maintenant 93 ans. Et en 1945, il venait de finir ses études à la Sorbonne, en droit. Et son oncle, parce que Henri Donneudeux de Vabre, c'était son oncle, l'a téléphoné, il m'a tout raconté l'histoire, que j'ai mis dans le livre, et a dit, pourquoi pas venir passer un an avec moi dans ce procès de Nuremberg. Et le jeune monsieur de 21 ans dit, oui, pourquoi pas. Assez incroyable comme invitation. Il passe un an avec son oncle, mais qu'est-ce qu'il voit? À un certain moment, on est en train de parler au téléphone, et je lui dis, et dis-moi Yves, les relations entre ton oncle Henri, juge à Nuremberg, et Hans Frank, avec qui j'ai un grand intérêt dans le livre, qu'est-ce que tu en penses? Silence, il dit rien. Et je répète la question. Il dit oui, Philippe, je t'ai entendu, mais je ne comprenais pas du tout ce que tu disais. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'était 2012-2013, alors 70 ans après le procès. Et je lui explique, en 1935, Hans Frank, dans sa capacité de directeur du Deutsche Akademie für Recht, l'Académie des droits allemand, organise une conférence, un grand événement à Berlin, et il invite Donneudeux de Vabre de venir à Berlin donner un discours. Et Donneudeux vient à Berlin, il donne un discours, et elle donne un discours sur son idée, c'est la création d'un tribunal international pénal. Déjà en 1935, assez remarquable. Et j'ai le discours. Et il donne son discours, et Hans Frank répond, quelle bêtise, ça ne va jamais se passer, ridicule comme histoire. 10 ans plus tard, le matin du 20 novembre 1945, Frank est assis là-bas, la porte ouvre, et Donneudeux va juger Frank. Incroyable. Franck a aussi invité Donnieu à dîner avec lui à Berlin. Et il invite aussi un troisième pour dîner avec eux, et c'est Julius Streicher. Alors je pose la question à Yves, comment tu réagis à l'idée que ton oncle connaissait et avait dîné avec l'homme qu'il allait juger? Il me dit, je ne savais pas. J'apprends ça maintenant en te parlant. Alors on va un peu plus loin dans l'histoire. Ça arrive au moment dans le procès où Franck est condamné, et il y a la question de, ça sera quoi la peine? 10 ans en prison? Une vie en prison? Condamné à mort? Et je retrouve les notes personnelles du juge américain dans le procès, Francis Biddle, et ses petites notes personnelles où ils discutent qu'est-ce qu'ils vont faire avec Frank. Et Donnedieu était le seul des 4 juges à voter contre la peine de mort. Et Biddle marque dans ses notes, en anglais, Donnedieu curiously tender towards Frank. Et ça, je trouve, avec ces mots, on comprend tout dans le droit. C'est comme ça, pour les jeunes qui sont là, qui sont étudiants de droit, c'est comme ça que le droit marche dans une grande partie. Et ça, il faut le connaître. Moi, on peut pas. Comment est-ce qu'on peut condamner à mort quelqu'un avec qui on a dîné? C'est difficile, si pas impossible. Alors, il y a plein dans le livre de petits détails. Et la raison pour les petits détails, c'est la totalité des petits détails, je pense, peut assister à donner une sorte de compréhension aux plus grandes questions. Surtout avec Franck. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait?
Raconte un peu Franck et sa famille en 2 mots.
Alors les détails. Les détails. Alors la grande question que personne ne peut répondre à la question. Comment est-ce qu'un homme comme Hans Frank, grand pianiste, cultivé, grand juriste, ami de Richard Strauss, comment est-ce qu'il peut être associé avec ce qui s'est passé? Il est pendu pour le mort de 4 millions de personnes. 3 millions de juifs, 1 million de polonais. Mais c'est incroyable. Alors pour un peu trouver une réponse à la question, j'ai fait la connaissance de son fils, Nicolas. Et on est devenu très très proche. C'est vraiment un homme remarquable. Un grand journaliste en Allemagne. Il était le foreign editor de Stern et quelqu'un que j'apprécie énormément. Qui a vécu une vie dure, dure, dure. On ne peut pas commencer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 7 ans quand tu joues à l'école et tout le monde se moque de toi parce que ce jour-là, ton père sera pendu à Nuremberg. Imaginons pour une minute, pour un fils, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il y a un jour, Nicolas me dit, tiens, il y a les lettres entre mes parents, tu vas bien aimer ça. Pourquoi je ne te montre pas les lettres? Et on comprend un peu la mentalité. Une mentalité qui rejette, à ma perspective, totalement la thèse de Hannah Arendt, la banalité du mal. Je ne m'accroche pas du tout à ça. Il savait exactement ce qu'il faisait. Exactement. Juillet 42, Franck est reconnecté avec sa chérie quand il avait 20 ans. Lily Grau, qui lui écrit et lui dit, tu es un ministre maintenant, tu es un grand monsieur, mon fils, il est perdu dans l'Est, il est dans la guerre contre les soviétiques, aidez-moi à trouver mon fils. Ils se réunissent, Franck tombe encore une fois amoureux de sa femme, de Lily Grau, et décide, quelques semaines plus tard, qu'il veut se divorcer. Il veut un divorce. Qu'est-ce qui se passe? Il écrit une lettre à sa femme, en disant, regardez, je suis impliqué dans quelque chose maintenant qui est tellement terrible, tellement criminel, il le dit, il écrit, que ce sera mieux pour toi et pour les enfants que vous prenez votre distance de moi, donnez-moi le divorce. Alors déjà, assez remarquable comme idée d'utiliser la solution finale. Il parle de sa présence à la conférence de Wannsee, en janvier 42, là on est juillet-août 42, et c'est son territoire qui sera utilisé pour la solution finale. Et Brigitta, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit à Adolf Hitler. Elle écrit au Führer. Dites à mon Hans qu'il ne peut pas avoir le divorce. Alors encore une fois, arrêtons une minute. Au milieu de la guerre, imaginons que Hitler est en train de s'en occuper avec ses gens d'histoire pendant qu'il a tout autre sorti. C'est remarquable, ça. Il répond. Il répond par téléphone. Il téléphone Frank et il dit à Frank, pas de divorce avant que la guerre soit finie. Non. Et Frank reste avec sa femme. Et encore une fois, on peut en tirer certaines choses de ces genres d'événements, mais c'est des tout petits détails comme ça qui ne commencent pas à nous permettre de répondre à ces questions qu'on se pose avec une certitude, mais qui nous poussent dans certaines directions à avoir une sorte de compréhension de comment un être humain, dans cette circonstance, peut agir dans cette façon.
Voulez-vous qu'on ouvre le... J'en avais encore une dernière, s'il n'y en a pas dans la salle, mais peut-être d'abord donner la parole à vous, si vous le souhaitez.
Est-ce que quelqu'un se sent avoir une question avant que... Alors, ça va être... Ça va revenir là.
Ce sera la première fois où il n'y a pas de question.
Si, si, il y en a.
Bien. Charles Le Benn. Alors, parmi toutes les choses extraordinaires qui sont racontées dans ce livre, le passage que je préfère, c'est celui de Miss Tilney. Parce que non seulement il y a une recherche, une découverte d'une personne qui, sans cela, était anéantie, ignorée, et faire ressortir toute l'histoire de cette femme protestante anglaise, ce qu'elle a fait pour votre mère, et aussi ce que vous avez fait, puisque au bout de l'histoire, elle est juste parmi les nations. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Merci beaucoup pour avoir mentionné, parce que je pense que c'est la personne dans le livre qui a touché peut-être les plus de personnes. Et c'est une histoire très, c'est une histoire française. C'est une histoire qui a lieu pas très loin d'ici. Mon grand-père arrive à Paris en janvier 1939. Mais il a laissé sa femme et sa fille, qui est assis pas très loin de vous, monsieur, à Vienne. Et quelques mois plus tard, il se décide à trouver des moyens, au moins pour emmener sa fille à Paris. Et je pense que c'est... Bon, j'ai écrit dans le livre, vous avez vu, l'église protestante sur l'avenue de Maine, qui fait la rencontre d'une personne qui part à Vienne aller chercher la personne qui va devenir ma mère. Il revient et à la gare, elle lui donne un morceau de papier. Le morceau de papier se met dans un sac et le morceau de papier est complètement oublié jusqu'à juillet 2010. Ça, c'est le 23 juillet 1939 qu'elle donne le papier. Et juillet 2010, quand je, en préparation pour partir à Lviv, deux mois plus tard, je demande à ma mère, est-ce qu'il y a de la documentation? Et ma mère sort deux petites valises, elle me donne plein de papiers. Heureusement, parce que ça m'a donné le feu vert. Sans ces papiers, qu'est-ce que j'aurais trouvé? Alors j'ai une grande appréciation pour cet acte. Et dans ces documents, je trouve ce tout petit morceau de papier, 2 cm par 3 cm, où c'est marqué Miss E. M. Tilney, Menuka, Bluebell Road, Norwich, Angleterre, en français. Et je pose la question à ma mère, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit qu'elle ne sait pas. Et je ne la crois pas tout à fait. Et je commence à faire une recherche qui dure finalement 4 ans. Et ça, vraiment, c'est mon éditrice à New York qui m'a dit, Philippe, ce qui est important, tu es juriste et tu sais comment trouver l'information. Alors, décris non seulement ce que tu as trouvé, mais comment tu l'as trouvé. Alors, je décris dans une vingtaine de pages comment j'ai trouvé qui était cette personne. Et cette personne, c'est quelqu'un de vraiment remarquable. C'est une personne qui est née en 1893, qui est devenue missionnaire protestante, qui partait en Afrique du Nord pour emmener les juifs et les islamistes à Jésus. Les musulmans à Jésus. Je peux le dire en anglais, bringing Jews and Muslims to Jesus. Pas, je pense, avec un très grand succès. Mais pour faire le voyage Norwich, Afrique du Nord, il fallait passer par Paris. Alors, elle passait beaucoup de temps à Paris, et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père, et c'est elle qui a sauvé la vie de ma mère. Mais elle l'a dit à personne. Et ça, c'est ce qui m'a tellement touché. Elle l'a dit à personne. J'ai trouvé sa famille qui habite maintenant en Floride aux États-Unis. Et elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Et la famille m'a dit qu'il la connaissait bien parce que finalement sa vie est assez remarquable. 39, elle sauve ma mère. Entre 39 et juin 40, elle sauve encore beaucoup de personnes qu'elle emporte personnellement. Elle apporte pas seulement au Havre pour voyager aux États-Unis. Et après, les Allemands arrivent et elle est emprisonnée pendant 4 ans et demi à Vittel, dans le Stalag 127. Aussi des histoires que j'ai découvertes complètement remarquables. Elle est libérée en août 44. Elle reste une petite année à Paris et elle repart dans son travail de missionnaire en Afrique du Sud. Et début des années 60, elle prend sa retraite et elle décide de retourner être et vivre avec son frère, Fred, où c'est un homme remarquable. Fred, c'est pas n'importe qui. Fred, et là, il va falloir que tu m'aides un peu avec le français, a quitté Norwich aux années 20 pour aller faire sa fortune aux États-Unis. Et il a fait sa fortune. Et non seulement il a fait sa fortune, mais c'est l'homme qui a découvert le bodybuilder Charles Atlas, qui était son meilleur ami. Alors, la fin de sa vie, Mademoiselle Tilney vivait en Floride, à Miami, au Coconut Grove, avec son frère Fred et le meilleur ami de Fred, Charles Atlas. Et je pense qu'il y avait un quatrième, mais je n'avais pas assez de preuves pour le faire. Le quatrième, c'était Johnny Weissmuller. Remarquablement, Tarzan. Et ça, j'adore. Et elle l'a dit à personne. Et je me suis interrogé sur la question de savoir qu'est-ce qui a vraiment motivé Mademoiselle Tilney. Est-ce que c'était une sorte d'idéologie chrétienne ou est-ce que c'était l'humanité? Et pour répondre à cette question, je me suis tourné vers une écrivain anglaise très très connue, Jeanette Winterson, qui avait une mère qui était aussi évangélique, radicale, comme... Mais c'était pour savoir un peu. Et j'ai donné tous les papiers à Jeanette, que je connais, qui habite à Londres, pas loin de chez moi. Et c'est Jeanette, finalement, qui m'a dit, non, c'est absolument clair, ayant tout lu, elle n'était pas motivée par l'idéologie. Elle est motivée simplement par l'humanité, de sauver la vie d'un individu. Mais c'est une histoire complètement remarquable, et c'est une histoire qui se passe totalement à Paris. Centré absolument à Paris. Alors c'est pour ça que je suis vraiment ravi que ce livre est publié en français. Je remercie Hélène.
Dominique Bomberger, Monsieur Sands, vous avez fait preuve, j'en parle en tant que journaliste, d'un acharnement absolument extraordinaire, dont bien peu de journalistes feraient montre. Vous nous avez parlé des différentes appréciations du droit international de deux de vos personnages principaux, vaguement des questions d'identité, mais je pense que tout le monde serait intéressé à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait au fond de vous pour vous acharner pendant toutes ces années afin de pouvoir écrire ce livre.
C'est une très grande question. Et bien sûr, je me suis posé cette question plusieurs fois. Alors, j'étais surtout très proche avec mon grand-père qui habitait rue de Maubeuge. Et moi, j'allais très souvent avec mes parents, mais surtout avec mon frère, passer quelques jours à côté de la gare du Nord. Et c'était un moment très important. J'étais tout jeune, tout petit. Mais chaque année, on retournait et j'adorais aller. J'adorais venir à Paris. J'adorais être dans cet appartement, être à côté de la gare du Nord. Il m'emmenait toujours dans le même petit resto. Et j'étais très proche avec lui. Mais, et j'en ai beaucoup parlé avec mon frère, on ne posait jamais de questions. On savait que ce qui était passé à sa famille avant 1945, c'était un sujet qu'il ne fallait pas, il fallait vraiment pas ouvrir cette porte. Et on respectait ça. Alors, je ne lui ai jamais posé de questions. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive à un certain âge, j'avais 50 ans en 2010, où on commence à se permettre de se poser d'autres sortes de questions. Et en fait, je pense que la réponse à votre question centralement, c'est une question d'identité. Mon fils, qui a lu le livre l'année dernière, il avait 21 ans, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après avoir lu le livre, il m'a dit, tu sais, papa, moi, je me rends compte, j'ai 21 ans, et je connais maintenant, ayant lu ton livre, d'où je viens et un peu plus qui je suis. Et toi, tu ne le savais pas quand tu avais 21 ans. Il y avait un trou dans ta vie. Pas un trou qui faisait mal, pas un trou... J'avais une vie très heureuse, mais il y avait un trou. Et je pense que le choix de carrière, le droit international, ce n'est pas une coïncidence. Le fait que je fais ce que je fais, ça ne peut pas être une coïncidence. Et finalement, est arrivée cette invitation, et c'était une opportunité de répondre à certaines questions. Et là, je comprends tout à fait que le silence que j'ai rencontré comme petit garçon avec mon frère, c'était un silence qui touchait plein de familles, et pas seulement la famille qui ont passé le même sorte de trajet que ma famille, mais au Rwanda, en Yougoslavie, en Chili, en Irak. On parle avec les gens et on observe que quand il y a eu cette histoire de tragédie, ces choses qui font très très mal, quand on a perdu beaucoup, beaucoup de gens, le silence offre une possibilité de continuer. Et je comprends que pour la génération qui a souffert directement, et aussi pour la génération qui suit immédiatement, ça peut être très difficile, sinon impossible, d'ouvrir ces portes. Mais pour la troisième génération, ça change. Et je commence le livre, il y a une copie là, je vais juste le lire. Je commence le livre avec les paroles de deux psychanalystes français. Et je pense que ça répond à votre question. J'avais posé une question à une amie qui est psychanalyste ici en France. Est-ce qu'il y a des écrits, il y a du travail par les psychanalystes qui ne regardent pas les relations entre parents et enfants, mais entre grands-parents et petits-enfants. Parce que j'avais un instinct, et ce n'était pas plus que ça, que mon grand-père m'avait communiqué des choses par des moyens que je ne comprenais pas bien. Et j'étais envoyé envers les écrits de deux psychanalystes français, Maria Torok et Nicolas Abraham, qui ont dévoué une large partie de leur travail professionnel à examiner cette question. Et j'ai beaucoup lu là-dessus, et j'en ai sorti une ligne qui répond, je pense, à votre question. Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres. Et les secrets des autres, ça ouvre les portes. pas pour la prochaine génération, mais pour la troisième génération. Et je pense que c'est à peu près dans ce domaine qu'il y a une réponse à votre question.
Oui, je vous ai écrit une lettre pour vous rappeler que je m'étais précipité sur votre livre parce que mon grand-père est né à Lemberg. Mon grand-père est né à Lemberg au milieu du XVIIIe siècle, en 1845. Je ne l'ai pas connu car il est mort en 1904, mais son souvenir est resté. Et d'autres choses ensuite m'ont attiré parce que j'aurais pu, figurez-vous, travailler avec votre grand-père. Quand votre grand-père, juste après la libération et la fin de la guerre, a travaillé pour le Joint, mon père était un des grands responsables qui travaillait avec le Joint déjà avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et je venais de passer mon bac en 1945, mon premier bac, sans oral, parce que j'avais été dans le maquis, mais oui, pendant quelques temps, en 1944. Et là, j'ai pu croiser, car mon père voulait que je travaille pour le Joint. Et pendant 2 ou 3 mois d'été, j'ai classé des fiches de déportés, des fiches de survivants. Et c'est pour ça que j'ai été également attiré par ce passage de votre livre. Il y en a bien d'autres, tous. Je n'ai pas pu, je vous le garantis, dormir avant de l'avoir terminé, d'avoir pris des notes, d'avoir relevé ici ou là quelques erreurs, telles que par exemple montrer que la Norvège et le Danemark avaient été envahis après mai-juin 40 en France, alors que bien entendu c'était avant, en avril. C'est une erreur tout à fait mineure, mais ce que je voudrais surtout c'est vous remercier pour le travail que vous avez fait. Je crois qu'on est beaucoup. Je vous ai d'ailleurs amené une photo qui va vous intéresser parce que c'est une photo du comité d'assistance aux réfugiés d'avant la guerre. Et je pense que l'anglaise extraordinaire dont vous parlez a dû travailler avec le comité d'assistance aux réfugiés qui a été fondé en 1935 et dont mon père était le directeur. Et donc, il y a eu effectivement des liens et cette histoire extraordinaire de cette anglaise est aussi un des points qui m'a empêché de dormir pendant toute une nuit.
Mais je vous remercie et on va, quand on a fini, on va certainement parler, mais ça me fait penser, je ne me suis pas du tout préparé pour la réaction à ce livre. J'ai reçu maintenant plus de 2500 lettres et emails des gens partout dans le monde. Il y a une sorte de diaspora lvivienne racontant des histoires remarquables. Et je ne comprends pas très bien comment c'est possible qu'un livre comme ça, qui a un aspect technique, qui n'est pas court, provoque ces réactions, qui a vendu maintenant en version anglaise plus de 100 000 exemplaires. Ça me paraît remarquable pour nous qui sommes avocats internationaux que les gens veulent lire le droit international. Ici, chez Pedone, ça, c'est vraiment quelque chose. Mais j'ai reçu vendredi dernier la plume remarquable de tout les lettres. Et je vais partager avec vous parce que ça revient à la question des détails. Alors, il y a un moment, tu vas te souvenir, Astrid, où j'ai trouvé là où est née mon arrière-grand-mère, Amalia, la maman de mon grand-père, qui est née dans un petit village qui s'appelle Zhulkiev, à 25 km de Lemberg, le Lviv. Et par coïncidence totale, là aussi est né Herr Schlauterpacht. Et pour continuer l'histoire, le fils de Herr Schlauterpacht, Elie Schlauterpacht, c'était mon premier prof de droit international. Alors il y a ces liens vraiment complètement, complètement bizarres. Alors, je suis un peu obsédé, je fais de la recherche, je vais dans les archives en Pologne et je trouve les fiches de naissance de ma arrière-grand-mère et de tous ses frères, 4 frères. Et je me pose la question en écrivant le livre, est-ce que je marque le nom des 4 frères? Et je me souviens, c'est un débat interne, est-ce que les gens veulent vraiment savoir, bon, déjà qu'elle avait 4 frères, mais les noms des frères et dates de naissance, mais je dis, allez, Les détails, c'est important. Je mets les quatre noms. Aaron, Josel, Libus et Nathan. Et ça part. C'est publié, ça part. Vendredi matin, je reçois une lettre d'un monsieur qui est prof en Californie en disant « J'ai lu avec grand intérêt votre livre et j'étais très surpris à la page 23 dans la version américaine de trouver le nom de mon grand-père. » Et c'était le frère de ton arrière-grand-mère. C'est-à-dire, mon père était le cousin de ton grand-père. Alors ça m'a vraiment touché, parce que pendant, après 45, mon grand-père a surtout cherché. Lui, le monsieur qui m'a écrit, a dit, mon père a cherché, il a trouvé personne. Il est décédé en 1990, et il ne savait pas que son cousin avait survécu, comme mon grand-père ne le savait pas. Et ça, quand on reçoit une lettre comme ça, ça touche vraiment, vraiment. Il y a d'abord, on est content de recevoir, mais aussi il y a une tristesse de savoir que des gens ont vécu des périodes sans jamais être reconnectés. Ils ont dû jouer à Jolkiev en 1910, 1911, quand ils étaient 5, 6 ans. Et ça m'a vraiment surpris, la réaction du livre et le courrier que j'ai reçu. Ça m'a profondément touché.
S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va... Je vous repasse le micro. On s'arrête là. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Et puis, vous êtes tous conviés à boire une coupe de champagne. Et puis, Philippe, peut-être qu'il y a un bureau là-bas et il y a un pupitre par la suite pour dédicacer. Mais tout de suite, la coupe de champagne.